à la production, Michel Joseph. Très bonne soirée à vous toutes et à vous tous sur VOA Afrique pour la suite de nos programmes.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à l'écoute. Nous sommes le mercredi 17 juin 2020. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. Au Burundi, le président élu Évariste Ndayishimiye doit prêter serment demain à Gitega, la capitale politique du pays. En République démocratique du Congo, le ministre de la Justice condamne un acte ignoble après le meurtre présumé d'un magistrat en charge d'un procès anticorruption.
L'autopsie a révélé des traumatismes au niveau crânien qui sont des résultats des coups à la tête que le juge avait reçus.
C'est confirmé en Tanzanie, le chef de l'État John Magufuli va briguer un nouveau mandat lors des élections générales prévues en octobre. À Genève, à la demande des pays africains, le Conseil des droits de l'homme entame un débat sur les violences policières contre les Noirs aux États-Unis et ailleurs. Dans l'actualité également, la Chine et l'Inde jouent la carte de l'apaisement après un accrochage meurtrier dans l'Himalaya autour d'un différend frontalier. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économie et sport à venir dans environ 10 minutes. Au Burundi, les préparatifs pour la prestation de serment demain du candidat élu, le général Évariste Ndayishimiye, vont bon train dans la capitale politique, Gitega, dans le centre du pays. Le stade Ingoma, où va se dérouler la cérémonie, est repeint aux couleurs nationales, de même que tous les hôtels de la deuxième ville du pays. Gitega grouille de milliers de policiers et militaires, de nombreux Burundais, affirme que rien ne va changer politiquement car le parti CNDD-FDD tient toujours les commandes du pays. Le point avec Nani Talani.
Dans le quartier du stade, tout le monde s'affaire pour la propriété des rues de Gitega, deuxième ville du pays, à une centaine de kilomètres de Bujumbura. Maisonnettes, hôtels et le stade Ingoma sont repeints aux couleurs nationales. Pour la première fois dans l'histoire, un président élu va prêter serment en dehors de l'hémicycle de Kigobe à Bujumbura, mais devant le peuple burundais. Évariste Ndayishimiye, président élu, va prêter serment dans un stade comble où les mesures de distanciation sociale seront difficiles à appliquer. À la question de savoir si le général Ndayishimiye va mener une politique d'ouverture, les militants du parti au pouvoir y croient fermement, mais de nombreux Burundais estime qu'il ne faudra pas s'attendre à une politique que celle prônée par les généraux qui gèrent le pays depuis presque 15 ans.
Nous reviendrons sur les défis au Burundi dans la Tranche Magazine. En République démocratique du Congo, le ministre de la Justice condamne au nom du gouvernement un acte ignoble au sujet de la mort d'un magistrat du pays. Célestin Tundaya Kassende a annoncé hier soir l'ouverture d'une enquête judiciaire pour élucider les circonstances du meurtre du juge Raphaël Yanni Ovungu, qui était en charge d'un procès de Vital Kamerhe, allié politique du chef de l'État Félix Tshisekedi. D'après le ministre, le magistrat est décédé d'une hémorragie résultant d'un traumatisme crânien et des coups reçus à un endroit très sensible du crâne. Nous l'écouterons tout à l'heure dans la partie magazine au micro d'Eddie Sango. En Tanzanie, le président sortant John Magufuli est candidat pour les élections prévues en octobre. Il a promis un scrutin libre et équitable, mais l'opposition ne cesse de dénoncer un climat de peur. Claire Morin-Gibourg.
C'est depuis le siège du parti au pouvoir, le CCM, dans la capitale administrative Dodoma, que le président John Magufuli s'est fait remettre les formulaires de candidature à l'investiture de son parti pour l'élection présidentielle prévue en octobre, mais dont la date exacte n'a pas été fixée. Mardi, conformément à la Constitution, le chef de l'État a dissous le Parlement en vue des prochaines élections, en promettant qu'elles seraient libres et équitables, tandis que depuis des mois, l'opposition dénonce un climat de peur et de violence. Le chef du principal parti d'opposition, Freeman Mbowe, a été victime d'une agression il y a une semaine. Il avait annoncé qu'il chercherait à être nommé par son parti comme candidat à la présidentielle. Les élections d'octobre pourraient se dérouler dans un contexte d'épidémie du Covid-19 dans le pays. Monsieur Magufuli a régulièrement minimisé la maladie et a assuré que les prières des Tanzaniens ont permis d'épargner le pays.
Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et le vice-président et ex-chef rebelle Riek Machar ont conclu ce mercredi un accord sur le contrôle de 10 États que compte le pays, principale pomme de discorde entre les deux camps depuis la formation d'un gouvernement d'union nationale. Après des mois de pourparlers, les deux rivaux ont accepté de former un gouvernement afin d'en finir avec une guerre civile qui a fait en 6 ans plus de 380 000 morts et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a effectué ce mercredi une visite surprise à Tripoli, siège du gouvernement d'Union, dont Ankara est le principal allié dans le conflit entre pouvoirs rivaux libyens. Il s'agit de la plus importante délégation turque à se rendre sur place depuis l'offensive lancée en avril de l'année dernière par le maréchal Khalifa Haftar pour tenter de prendre Tripoli. La tentative a échoué récemment. Le GNA, à la faveur d'un soutien militaire turc accru, parvenant même à chasser les Haftar de tout le nord-ouest du pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève se penche aujourd'hui sur la question du racisme et des violences policières à la demande des pays africains qui souhaitent une enquête sur ce qu'ils qualifient de racisme systémique aux États-Unis. Eric Manirakiza.
À Genève, le débat est engagé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, alors qu'un mouvement de contestation secoue les États-Unis depuis la mort le 25 mai à Minneapolis de George Floyd, un noir asphyxié par un policier blanc. Dans un projet de résolution qui circulait hier, le groupe des pays africains condamne fermement les pratiques raciales discriminatoires et violentes des forces de l'ordre contre les Africains et les personnes d'origine africaine et le racisme endémique structurel du système pénal aux États-Unis et dans d'autres parties du monde. Un haut responsable du département d'État américain a parlé d'une idée ridicule, soulignant que les quatre policiers impliqués dans la mort de George Floyd ont tous été inculpés pour meurtre ou complicité et que le Minnesota autorise la retransmission télévisée des procès. On ne peut pas avoir plus de transparence, a-t-il plaidé. Le président américain Donald Trump a lancé la veille une réforme illimitée de la police avec un décret interdisant les prises controversées d'étranglement, sauf en cas de danger pour la vie du policier. Le frère de George Floyd devrait s'adresser par lien vidéo à cette instance onusienne dont les États-Unis se sont retirés il y a 2 ans. Le débat d'urgence à l'agence onusienne devrait se poursuivre jeudi. Le projet de résolution demande l'établissement d'une commission d'enquête internationale indépendante. Son but serait de traduire en justice les auteurs de violences. Ses conclusions devraient être rendues d'ici un an.
Toujours au sujet de cette réunion à Genève, le frère de George Floyd a appelé l'ONU à aider les Américains noirs, notamment en envisageant la mise en place d'une commission d'enquête indépendante sur les violences policières contre les Africains américains. « Vous avez le pouvoir de nous aider à obtenir justice », a lancé Philonise Floyd dans un message vidéo. La Chine et l'Inde sont tombés d'accord pour apaiser la tension après les heurts meurtriers à la frontière des deux pays. C'est ce qu'a annoncé Pékin après un appel téléphonique entre les chefs de la diplomatie indien et chinois. John Linden.
Les affrontements de lundi dans une vallée de l'Himalaya à la frontière contestée entre les deux pays ont fait au moins 20 morts côté indien. Pékin n'a pas fourni de bilan mais affirme qu'il y a eu des morts et des blessés. Il s'agit des premiers heurts meurtriers entre les deux puissances nucléaires depuis 45 ans. Pour apaiser la tension, le ministre chinois des Affaires étrangères s'est entretenu avec son homologue indien. Les deux parties ont convenu de traiter équitablement les graves événements qui ont eu lieu dans la vallée de Galwan. Pékin et New Delhi s'engagent notamment à respecter les consensus atteints lors des réunions militaires entre les deux parties, d'apaiser la situation sur le terrain au plus vite et de maintenir la paix et la tranquillité dans les zones frontalières, a ajouté la diplomatie chinoise. La dernière guerre frontalière livrée entre la Chine et l'Inde remonte en 1962.
En France, le parquet financier a requis ce mercredi 4 ans d'emprisonnement et une amende maximale de 500 000 euros contre l'ancien patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diack, à son procès pour corruption sur fond de dopage en Russie. Les procureurs ont requis une peine encore plus lourde de 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende contre son fils Papa Massata, ancien puissant conseiller marketing à la Fédération internationale d'athlétisme. Le procureur a requis un mandat d'arrêt pour Papa Massata, absent à son procès. Père et fils sont jugé à Paris avec 4 autres personnes, notamment pour avoir permis de retarder à partir de fin 2011 des sanctions disciplinaires contre les athlètes russes soupçonnés de dopage en échange de financement et pour favoriser des contrats de sponsoring et de droits télé. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité ce soir. Sans plus tarder, en résumé des nouvelles économiques en Afrique, la Minute Éco avec Ekiabadou.
Kinross et la Mauritanie s'accordent enfin sur l'or de Tasiast. Le ministre mauritanien du pétrole, des mines et de l'énergie, Mohamed Abdel Veta, et le directeur général de la société Kinross, Jean-Paul Rawlinson, ont signé le 15 juin une lettre d'intention destinée à modifier un contrat de 2006 et à ouvrir la voie à une collaboration renforcée et à l'intensification des investissements de Kinross en Mauritanie, selon le communiqué de l'entreprise aurifère. L'Afrique pourrait bien devenir un relais de croissance alternatif car elle a affiché une meilleure résilience aux conséquences économiques du Covid-19 que les autres régions du monde. Le continent a mis en place une série de réponses en termes de politique monétaire et budgétaire beaucoup plus modestes, selon Matt Winkler, un des cofondateurs de l'agence d'information financière Bloomberg. La Commission européenne a annoncé mardi l'ouverture de plusieurs enquêtes contre le géant américain Apple, accusé de pratiques anticoncurrentielle. Bruxelles veut réformer le droit européen qui permettra de limiter la puissance des géants américains de l'Internet. Apple, Amazon, Google et Facebook sont accusés par nombre de leurs petits concurrents d'être des gatekeepers ou contrôleurs d'accès qui, du fait de leur hégémonie, les empêchent de se développer, voire de survivre.
Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le Bayern Munich a décroché le 30e titre de champion d'Allemagne de son histoire, le 8e consécutif. C'est le tout premier titre majeur décerné dans le foot européen depuis la reprise post-coronavirus. Le recordmeister s'est imposé à huis clos 1-0 à Brême grâce à un but de Robert Lewandowski. Plus que jamais meilleur artificier du championnat avec 31 buts. Munich compte désormais 10 points d'avance sur son dauphin Dortmund, qui ne peut plus le rejoindre avec 3 matchs seulement à jouer, dont un ce soir contre Mayence à 20h30 temps universel pour la 32e journée. Si le champion est désormais connu, la Bundesliga n'a pas encore épuisé tout son suspense. Mönchengladbach, 59 points, vainqueur hier 3-0 de Wolfsburg, a repris provisoirement à Leverkusen la 4e place synonyme de qualification pour la Ligue des champions 2020-2021. Et justement, pour cette saison, la Coupe aux grandes oreilles suspendue en mars à cause du Covid-19 sera complétée par un mini-tournoi à 8 équipes qui se tiendra à Lisbonne en août. Selon l'annonce faite par l'UEFA, les quarts de finale et les demi-finales se dérouleront sur un match au lieu des 2 comme d'habitude. La finale devant se tenir le 23 août, a déclaré le secrétaire général adjoint de l'UEFA, Giorgio Marchetti, après une réunion du comité exécutif tenue par visioconférence. Les 4 derniers matchs retour, Manchester City-Real Madrid, Bayern Munich-Chelsea, Juventus-Olympique Lyonnais et Barcelone-Napoli auront lieu les 7 et 8 août, soit au lieu initialement prévu ou au Portugal. Le Paris Saint-Germain, l'Atlético Madrid, l'Atalanta Bergame et le RB Leipzig se sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Istanbul, qui devait accueillir la finale de 2020, recevra désormais celle de 2021. La fin de la Ligue des champions féminines suspendue au stade des quarts de finale se déroulera, elle aussi, dans un format raccourci de type Final 8 en Espagne du 21 au 30 août. La présence ou non de spectateurs dans ces tournois sera régulièrement évaluée en fonction de la situation sanitaire, a indiqué l'UEFA. Tennis pour finir, le circuit professionnel messieurs reprendra le 14 août à Washington et Roland Garros se tiendra du 27 septembre au 11 octobre, selon le nouveau calendrier officialisé par l'ATP. Après le tournoi ATP 500 de Washington, s'enchaîneront le Master Mills de Cincinnati et l'US Open, tous deux joués à New York. Roland Garros, reprogrammé dans un premier temps à partir du 20 septembre, est reculé d'une semaine supplémentaire pour permettre la tenue des Masters Mills de Madrid le 13 septembre, puis Rome le 20 septembre.
Merci, Yacouba. Jacques Aristide avec vous. VO Afrique vous propose une nouvelle émission spéciale sur la maladie de Covid-19, un nouveau forum citoyen virtuel entièrement consacré à la pandémie du nouveau coronavirus à l'heure du déconfinement graduel dans de nombreux pays, y compris en Afrique. Nos invités répondent à vos questions qui touchent notamment la santé publique et l'économie. Où en est-on dans la lutte contre la maladie le samedi 20 juin et le dimanche 21 juin à 10h et 12h en temps universel sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci pour votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Le rendez-vous est donc pris pour demain au Burundi. Le nouveau président, Évariste Ndayishimiye, élu le 20 mai, prêtera serment pour remplacer Pierre Nkurunziza, décédé le 8 juin. Cette décision d'intronisation avait été prise la semaine dernière à l'issue d'un conseil gouvernemental. Pour une analyse, Bagasikura a joint à Liège, en Belgique, Bamvugunium Vira Frédéric, ancien vice-président du Burundi.
Un pays qui n'est pas gouverné, qui n'a pas de chef d'État, même une minute, c'est beaucoup. Donc c'est là où je dis où il fallait absolument pourvoir à son remplacement le plus rapidement possible. C'est vrai, la question, la mort d'un président après que l'autre ait été élu, en attendant que la date, le mandat se termine, cette question n'avait jamais été prévue dans notre constitution. Il faut agir. La jurisprudence exige qu'on trouve des solutions. C'est pour cette raison que la Cour constitutionnelle a pensé trouver une solution du genre. Mais sinon, en ce qui me concerne, ça ne nous rend ni chaud ni froid.
Alors, la question avait été posée entre les constitutions de 2005 et celle de 2018. Laquelle appliquer? À votre avis, quelle est la voie suivie?
Pratiquement, ce qui est prévu par la constitution, que ce soit celle de 2005 ou celle de 2018, c'est qu'on prévoit le pourvoi de l'institution, du chef de l'institution présidentielle, lorsque celui-là, la mort intervient ou la cause de cessation des fonctions puisse intervenir avant la fin du mandat de celui-là qui, justement, était en place. Mais la question qui se pose maintenant, c'est que rien n'avait été prévu lorsque cette mort intervient et après l'élection de celui-là qui doit succéder au président de la République. Alors, fallait-il précipiter l'investiture? Fallait-il attendre la fin du mandat de celui-là qui venait de mourir? Non, la question qui se pose, c'est que, en réalité, il fallait, dans l'immédiat, pourvoir à l'institution présidentielle, parce que peut advenir que le pays puisse faire face à beaucoup de problèmes qui exige l'intervention d'un chef d'État.
Si vous étiez Ndayishimiye et intronisé demain, quelles seraient vos premières décisions?
Si moi j'étais Ndayishimiye, ma première décision devrait absolument d'arrêter les actions des Imbonerakure, parce que ça crée beaucoup de désordre dans le pays.
Et d'autres décisions?
D'autres décisions, c'est d'aller tendre la main à tous les opposants pour qu'on discute de l'avenir du pays, pour qu'on puisse absolument revenir sur l'accord d'Arusha, voir ce qu'il y avait de positif qui pouvait nous aider à pouvoir avancer. Réconcilier le peuple, faire la paix et faire le développement. Ça devrait être ça, les grandes préoccupations de cette personne. Et quatrièmement, évidemment, c'est comment redorer l'image du Burundi dans le concert des nations. Ça, c'est fondamental aussi.
Bamvugunium Vira Frédéric, ancien vice-président du Burundi, aujourd'hui opposant, vivant en exil à Liège, en Belgique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, le Burundi sur le point de tourner une page de son histoire après la mort subite du président Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 15 ans. Évariste Ndayishimiye, le candidat du parti au pouvoir CNDD-FDD qui a remporté les élections du 20 mai, va prendre fonction plus tôt que prévu. Quel est l'héritage du président Nkurunziza? Le nouveau chef de l'État pourra-t-il réconcilier les Burundais et sortir le pays de son isolement diplomatique? Nous allons débattre de tout cela avec nos invités ce jeudi 18 juin 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le ministre de la Justice a annoncé hier soir l'ouverture d'une enquête judiciaire pour élucider les circonstances du meurtre d'un magistrat qui était en charge du procès de Vital Kamerhe, directeur de cabinet et allié politique du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le juge Raphaël Yaniyo-Bongu est mort dans la nuit du 26 au 27 mai, moins de 48 heures après avoir présidé la deuxième audience de ce procès. Eddy Sango a le vice-premier ministre et ministre de la Justice, Célestin Tounda Yakassamré, qui condamne au nom du gouvernement un acte ignoble.
L'autopsie a révélé des traumatismes au niveau crânien qui sont des résultats des coups à la tête que le juge avait reçus. Donc c'est ça qui confirme le fait que c'est un meurtre. Parce qu'il a été frappé avec des instruments sur la tête, sur le crâne. Il y a une coagulation du sang dans la tête.
Est-ce que les médecins légistes ont pu déterminer quand est-ce que les coups auraient pu être donnés? Est-ce que c'était juste avant les décès ou ça datait de quelques temps?
Mais puisque les coups sont la cause du décès, donc ça veut dire que les coups ont été donnés quelques temps avant le décès. Si les coups ont été donnés après, les coups ne seraient pas la cause du décès. Et les coups ont été bel et bien donnés avant le décès.
C'est-à-dire quelques heures avant le décès, parce qu'un jour, quelques heures avant, il était au procès.
Oui, quelques temps, les enquêtes sont en train d'être faites pour essayer d'établir les autres éléments.
Mais qu'en est-il alors des substances toxiques qui ont été trouvées dans son corps?
Les substances toxiques, toute substance toxique peut être un poison. Ça dépend maintenant de la teneur de cette substance. Et dans le cas d'espèce, ce n'était pas des substances létales. Ça restait des substances végétales, mais dont la dose est inférieure et très basse et ne peut pas avoir de lien avec le décès.
Maintenant que vous avez annoncé une ouverture d'enquête, est-ce qu'il y aura un impact sur les procès qu'il présidait, qu'il a laissé en cours, qui aura son verdict le 20 juin? Les procès de Vital Kamerhe, je vais dire.
Non, le procès vous dit qu'il aura les verdicts le 20, mais ici nous sommes encore au niveau des enquêtes. Il faut laisser les enquêtes continuer. On ne peut pas savoir ça aura l'impact si ou quoi, ça aura quelle implication. Laissons les enquêtes se poursuivre dans toute indépendance.
L'autopsie a connu aussi la participation des experts indépendants, comme vous le dites, la MONUSCO et autres, c'est cela?
Oui, la MONUSCO, c'est une structure internationale qui dépend des Nations Unies et qui ont des experts habilités à ce genre de travail.
Et ils ont attesté les mêmes résultats?
Ils ont fait le rapport écrit.
Les avocats de la famille ne semblent pas accepter cela parce qu'ils mettent en doute, ils demandent quand est-ce qu'il aurait pu être frappé.
C'est le droit, chacun a le droit d'accepter ou de ne pas accepter, c'est tout à fait normal. Mais nous nous donnons la version des médecins légistes. De leur côté aussi, ils peuvent saisir la justice.
On écoutait le ministre congolais de la justice, Célestin Tounda Yakassendé.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Kenya, la police a annoncé l'inculpation d'un de ses agents pour la mort d'un garçon de 13 ans pendant le couvre-feu dû au coronavirus. Yassine Moyou a été abattu fin mars alors qu'il se trouvait sur le balcon chez lui à Nairobi. Les militants des droits humains accusent les policiers de brutalité et d'homicide. Un reportage de Lenny Rouvaga à Nairobi, relaté par Nathalie Barge.
Le fils de 13 ans de Hussein et Adidja Moyo a été abattu lors de l'application du couvre-feu par la police. Hussein se dit soulagé d'apprendre qu'un policier sera jugé pour la mort de son fils.
Mon voisin, qui a été témoin de l'incident, l'a vu pointer son arme, viser sa cible et tirer. Mais en ce moment-là, ma fille aînée avait dit à sa mère, « Sortons de ce balcon, ce n'est pas sûr ». Mon épouse a alors fait signe aux enfants de s'enfuir, mais il était trop tard. Yassine avait été touché par la balle.
Charles Wino, un porte-parole de la police, a confirmé que l'officier devait être inculpé pour la mort de l'adolescent qu'il décrit comme un accident.
Nous savons qu'il ne l'a pas fait intentionnellement, mais il a quand même commis un crime d'homicide involontaire ou autre. Il a tué un innocent par négligence professionnelle. S'il avait fait son travail professionnellement comme il a été formé, nous n'aurions pas perdu ce garçon.
Plusieurs manifestations ont eu lieu ce mois-ci pour dénoncer une augmentation des incidents de violence policière pendant le couvre-feu. Hawa Hussein, qui a perdu son mari, a participé à des marches dans le quartier populaire Matare à Nairobi, où Yassine Moyo a été tué.
Nous en avons assez de la brutalité policière. Ils tuent nos jeunes, y compris mon défunt mari. J'ai un jeune fils et en protestant, je me bats pour son avenir parce qu'il y a constamment des exécutions extrajudiciaires et nos voix ne sont pas entendues.
L'autorité indépendante de surveillance de la police du Kenya affirme enquêter sur 15 décès liés à la police depuis mars et que 5 autres policiers font face à des accusations pour agression antérieure au couvre-feu. Rama Wako, une activiste du centre de justice Kiamaiko, dit douter de l'intégrité de cette agence fédérale.
Nous pensions que l'IPOA mettrait en accusation davantage d'agents voyous dont nous savons en tant que communauté qu'ils ont commis des homicides. Mais il ne s'est rien passé et c'est pourquoi nous nous demandons quels sont les pouvoirs de ces policiers.
L'IPOA a fait condamner cet officier depuis sa création en 2012. Les militants des droits humains affirment que les violences policières se comptent par dizaines. Le 11 juin dernier, 3 policiers ont été arrêtés après avoir traîné derrière une moto une femme, en partie dénudée et molestée. L'incident filmé et publié sur les réseaux sociaux avait suscité l'indignation dans tout le pays.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Après des semaines de manifestations aux États-Unis contre le racisme et les violences policières, le président Donald Trump a signé mardi un décret ordonnant une réforme de la police. Ce décret vient s'ajouter aux efforts séparés des républicains et démocrates au Congrès, alors que la Cour suprême a refusé lundi de réexaminer l'immunité de fait qui protège les agents de police. Patsy Vidakuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
Un établissement de restauration rapide, Wendy's, a été incendié à Atlanta, en Géorgie, par des manifestants en colère. C'est à cet endroit que Rashad Brooks, un noir de 27 ans, a été tué la semaine dernière par un policier blanc. Sa mort est survenue peu après celle, le 25 mai, de George Floyd, asphyxié sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis, dans le Minnesota. En signant son décret ordonnant une réforme de la police, le président Donald Trump a dit que le pourcentage de mauvais policiers est minuscule. Il a appelé à une réforme qui ne compromette pas le travail des bons officiers. Le chef de l'exécutif américain a rejeté les appels à réaffecter les fonds et les ressources de la police à des formes non policières de sécurité publique comme les services sociaux.
Les Américains veulent la loi et l'ordre. Ils demandent la loi et l'ordre. Ils ne le disent peut-être pas, ils n'en parlent peut-être pas, mais c'est ce qu'ils veulent. Certains ne savent même pas ce qu'ils veulent, mais c'est ce qu'ils veulent.
Le décret inclut l'interdiction des prises d'étranglement controversées, sauf si la vie d'un policier est en danger, a précisé le président américain. La mesure prévoit aussi la certification des services de police, d'intensification du partage d'informations pour mieux suivre les policiers en cas de recours excessif à la force et à la création des services pour la santé mentale et la lutte contre la toxicomanie. Raphaël Mangual du Manhattan Institute, un think tank conservateur.
C'est un pas dans la bonne direction. Ça ne me semble pas étendu, ce qui ne devrait pas l'être, car tout changement de grande envergure doit venir du Congrès. Mais je pense qu'il pointe les bonnes choses, les lacunes en matière de formation établie, plus de clarté en ce qui concerne les données sur les mauvaises conduites policières, et les rend plus accessibles au public.
Le leader de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, juge le décret de Trump insuffisant.
Dans les choses qui ont été évoquées, il pourrait y avoir l'interdiction des étranglements. Ce n'est pas le cas, c'est plutôt volontaire. Mettre en place un registre national, ce n'est pas le cas, c'est plutôt volontaire.
Malgré le consensus sur la nécessité d'agir, il n'y a pas encore d'accord au Congrès sur la réforme de la police, les démocrates de la Chambre et les républicains du Sénat présentant des positions concurrentes. L'un des désaccords majeurs porte sur la question de l'immunité qualifiée qui protège les agents de force de l'ordre. La Cour suprême des États-Unis a refusé lundi de réexaminer le sujet.
Et voilà, c'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph.